Alléluia. Que le nom du Seigneur soit exalté ce matin. Amen. Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Amen. Ce passage-là est intéressant, on peut le lire jusqu'au bout, mais ce qui m'intéresse pour le moment dedans se trouve au verset 3. Amen. Au verset 3, il dit ceci, « Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant, quoi, toute chose par sa parole puissante. » Amen. La Bible dit que Dieu soutient toute chose par sa parole puissante. Amen. Dis à ton voisin, la parole de Dieu est puissante. Amen. La parole de Dieu est puissante. En réalité, la parole de Dieu est le véhicule, est le canal qui transmet la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est transmise et véhiculée par sa parole. Pas par autre chose, mais par sa parole. Lorsqu'il s'est agi de communiquer la puissance aux hommes, ou de communiquer la puissance à un être quelconque sur la terre, lorsqu'il a fallu que Dieu envoie la puissance pour que les hommes aient la capacité de briser l'esclavage du diable sur leur vie, les liens et la force et la puissance du diable sur leur vie, Dieu a estimé qu'il était important d'envoyer quoi ? Sa parole. Comme Dieu le fait dans toutes sortes de choses. Lorsque la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1, au commencement, on va lire Genèse 1. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Et ensuite, la Bible dit quoi? La terre était informe et vide. Et il y avait quoi? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Ce n'est que lorsque Dieu a parlé, ce n'est que lorsque Dieu a dit que la lumière soit, que la lumière fut. Amen. C'est vrai que lorsque nous lisons ce passage, on dit oui, c'est vrai, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais comme la Bible ne nous dit pas combien de temps se sont passés entre le moment où Dieu a créé la terre et les cieux et le moment où la terre était informe et vide, la Bible ne nous dit pas combien de temps le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir au-dessus des eaux. Ça peut durer 1000 ans, ça peut durer 100 ans, ça peut durer 1 an, peut-être 1 heure. Quoi qu'il en soit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, mais l'ordre n'a pas commencé à se faire. La guérison n'a pas commencé à s'opérer. Le miracle n'a pas commencé à se faire. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, mais il fallait qu'il y ait quelque chose pour déclencher la manifestation. Et ce qui a déclenché la manifestation, c'est lorsque Dieu a dit « que la lumière soit ». Et la Bible dit, dans l'instant qui a suivi la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel, la Bible dit quoi ? Et la lumière fut. Alléluia. Donc, en d'autres mots, nous pouvons comprendre clairement ici que la puissance qui est la capacité de faire et la capacité de produire se trouve dans la parole. Parce que c'est la parole que Dieu a donnée, que la lumière soit, qui a produit les résultats et la lumière fut. Alléluia. Donc, la puissance est dans la parole. La puissance est dans la parole. Dis à ton voisin, la puissance est dans la parole. Prends ta Bible dans le livre de Psaumes, Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. C'est bon? Tout le monde l'a trouvé? Psaume 103, verset 20. Il dit... Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Amen. Vous avez trouvé? Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Ensuite, il dit quoi? Qui est puissant en force. Amen. Et qui exécutait ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Amen. Tout est ici, là. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges. Les anges, c'est qui? Les anges sont des entités qui sont chargées d'accomplir et de faire la volonté de Dieu. Amen. Les anges sont commissionnés pour pouvoir aider et pour pouvoir travailler et pour pouvoir se battre et pour pouvoir combattre pour que le royaume de Dieu avance, pour que les choses de Dieu avancent. C'est pour ça que la Bible dit encore dans Hébreux que nous allons relire plus tard au verset 14 que ne sont-ils pas des esprits au service de ceux qui sont sauvés? Donc la Bible nous dit ensuite que ces anges-là sont quoi? Ils sont puissants en force. Ils sont puissants et ils sont forts. Pourquoi? Parce que les anges ont pour mission d'accomplir des choses. En réalité, lorsqu'il y a eu combat au ciel entre Dieu, entre le royaume de Dieu et Satan, lorsque Satan s'est rebellé, la Bible dit qu'il y a eu guerre au ciel. Après, la Bible dit que Satan n'a pas été plus fort que les anges de l'Éternel. Dieu lui-même n'a pas combattu, mais Dieu a envoyé ses anges pour pouvoir combattre. Et les anges de l'Éternel ont eu le dessus sur Satan et sur les anges déchus. Et la Bible dit qu'il ne fut plus trouvé de place dans les ciels pour eux et on a dû les chasser. Et c'est comme ça que les anges déchus sont venus sur la terre. Alléluia. Mais cette même Bible-là nous dit que, en parlant des anges, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force. Et ensuite il dit, et qui exécutez ses ordres. Ils exécutent quoi? Les ordres de l'Éternel, les ordres de Dieu. Ils sont formés pour pouvoir exécuter les ordres. C'est comme des militaires. Un militaire, il est formé, et certains, surtout ceux qui sont dans ce qu'on appelle les forces spéciales, vous avez certains militaires, l'État va dépenser plus d'un million d'euros ou 2 millions d'euros pour pouvoir les former. On les prend... assez jeunes, on leur donne une formation militaire, mais plus approfondie. Ils apprennent à mémoriser des choses, ils apprennent les déplacements stratégiques, ils apprennent à tirer, ils apprennent à se camoufler, ils apprennent à survivre en territoire hostile, ils apprennent à survivre en brousse pendant deux semaines, trois semaines, sans qu'on leur donne à manger ou quoi que ce soit. Ils sont formés pour ça. Certains sont formés pour pouvoir être déposés, par exemple, dans des zones de guerre, aller chercher des informations, revenir avec ces informations-là. Et pour pouvoir les former, on investit énormément d'argent. Nos impôts aussi servent à ça, à former des militaires d'élite, des hommes d'élite, des hommes puissants, des hommes forts. Mais eux, il y a quelque chose qui déclenche leur action. Il y a quelque chose qui déclenche leur action. Et qu'est-ce qui déclenche leur action? Les ordres. Un ordre. Tant qu'il n'y a pas d'ordre, ils ne font rien. Tant qu'il n'y a pas d'ordre, ils sont comme vous et moi, ils circulent dans la ville et tout, vous ne pouvez même pas savoir, certains, ils doivent même pas dire à leur compagnon ou à leur épouse qu'est-ce qu'ils font en réalité, ils sont là, ils se déplacent comme tout le monde, vous ne pouvez pas savoir qui ils sont pas chargés d'agir dans la ville, non, c'est sur les territoires de guerre. Mais à un moment, on leur envoie l'ordre, vous avez l'ordre d'aller capturer telle personne en Afghanistan. Dès qu'il reçoit l'ordre, en même temps, toutes ses capacités se mettent maintenant au service de la personne dont ils ont reçu l'ordre. C'est comme ça. Donc c'est l'ordre qui déclenche. Et la Bible nous dit ici que les anges qui sont puissants en force, alléluia, imaginez que normalement les chrétiens doivent avoir des anges qui combattent avec eux. Amen. Tous les enfants de Dieu, c'est notre héritage. Ça fait partie de notre héritage. Vous ne me croyez pas? Retournons dans Hébreux chapitre 1. Cette fois-ci, on lit le verset 14. Le même Hébreux chapitre 1. Verset 14. Il dit au verset 14, en parlant des anges, il dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ?» Amen. Envoyés. Ils sont quoi ? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Ne sont-ils pas tous des esprits? Les anges sont donc des esprits. Alléluia. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ce sont des esprits au service de Dieu. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Mais ils sont envoyés. Dieu les a envoyés pour faire quoi? Pour exercer un ministère. Ça veut dire quoi? Pour servir. Pour aider. Pour soutenir, pour combattre, pour poser des actes et pour faire des choses au service, en faveur, c'est-à-dire pour quelqu'un, en faveur de qui? De ceux qui doivent hériter du salut. Qui doit hériter du salut? Les enfants de Dieu. Donc les anges sont envoyés pour exercer un ministère en ta faveur. Dieu les a envoyés pour exercer un ministère en notre faveur. Dieu les a envoyés pour agir de telle sorte que les choses nous soient favorables. Peut-être qu'une décision a été prise à ton encontre qui t'est défavorable ou qui te sera défavorable. Mais eux, ces anges-là, ont été envoyés pour remplir un ministère. Et ce ministère-là est de faire de telle sorte que la chose qui, à la base, a été prononcée ou est défavorable à ton encontre, que ces anges-là puissent travailler à ce que ceux qui étaient à la base défavorables te deviennent favorables. C'est pour ça que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que quelle que soit la situation, peut-être que sur les yeux, avec les yeux humains, les gens voient que la situation est défavorable. Mais toi, tu as des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer auprès de toi un ministère en ta faveur. Et ces esprits-là qui sont envoyés dans Psaume chapitre 103, verset 20, la Bible nous dit que ces esprits-là sont quoi? Ils sont forts et puissants. Amen. Ils sont puissants en force. sont capables de faire des choses extraordinaires. Ils sont capables de s'opposer à Satan. Ils sont capables de combattre. Ils sont capables de te protéger. Moi, je me rappelle une fois, j'ai échappé à tellement d'accidents. Une fois, je vous ai parlé d'un accident que le Saint-Esprit m'a permis d'éviter. Quand j'étais allé coller des affiches au tout début du ministère, j'étais allé coller des affiches. Et moi, j'étais dans le véhicule, j'avais trois frères qui étaient avec moi. Il y en a un qui était côté passager, et puis deux autres à l'arrière. Notre système était bien rodé, on avait la colle dans le coffre, l'autre avait les affiches sur ses genoux. Dès qu'on arrive dans un endroit, il y en a un qui sort, il prend la colle. Pendant ce temps, l'autre sort avec l'affiche, l'autre passe la colle sur le mur ou truc, et puis l'autre colle les affiches. Voilà, donc c'était rodé. Moi, j'étais dans la voiture, je conduisais. À un moment, je suis allé garer à côté d'une pharmacie. Et les autres sont sortis pour aller coller. Et je reçois une parole qui me dit « Avance le véhicule. Bouge le véhicule. » Je me dis « Mais c'est quoi ça ?» Mais je sais que quand Dieu te parle, c'est la parole de Dieu te parle, tu sais que Dieu te parle. Donc j'avance le véhicule de quelques mètres. Je n'ai même pas fini d'avancer le véhicule de quelques mètres. Il y a un taxi fou. Quelqu'un qui a perdu le contrôle de son véhicule. Qui est passé juste à l'endroit. Il roulait à près de 100 et quelques kilomètres à l'heure. Il est passé juste à l'endroit où la voiture était préalablement garée. Il est passé devant, il est rentré dans le mur de la pharmacie. Et j'ai regardé ça, j'ai dit, waouh, j'aurais pas bougé, le véhicule rentrait directement sur moi. Ça, c'est mort subite. Ça, c'est le Saint-Esprit. Une autre fois, je partais une veillée. Et j'étais en train, je conduisais. À un moment, je suis arrivé, il y a comme une grande descente au niveau d'un quartier qui s'appelle Cocody. Et puis, j'arrive là-bas, la voiture commence à accélérer. C'était une voiture automatique. Je freine, la voiture ne ralentit pas. Je tire sur le frein à main, ça ne répond pas. La voiture partait seulement. À un moment, où je descendais comme ça, il y avait une voiture devant moi qui arrivait, qui roulait lentement. Donc je voulais dépasser parce que sinon je lui rentrais un truc à l'arrière. Au moment où je bouge sur le côté, il y a un grumier, un camion qui arrive. J'ai dit, Jésus, my God. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé garé sur le côté de la route. Garé sur le côté de la route. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était la mort qui était en face. Choc frontal. Vous savez c'est quoi? C'est. En plus, j'étais lancé, mais c'était incroyable. Jésus! Et puis je suis au bord de la route. My God! Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Dès le moment où tu es héritier de Dieu, héritier de Christ, co-héritier avec Christ, les anges, tu as accès au ministère des anges. Les anges doivent exercer un ministère en ta faveur, pas en ta défaveur. Personne ne peut envoyer des anges pour venir poser des actes qui sont contraires à ton avancée. Ils sont là pour agir en ta faveur. La Bible dit qu'ils sont puissants en force. Mais la Bible dit également qu'ils font quoi? Ils exécutent ses ordres. Amen. Et quels sont ses ordres? En obéissant, qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent à la voix de sa parole. Donc, qu'est-ce qui déclenche l'obéissance des anges? La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va maintenant faire quoi? Déclencher le ministère des anges en ta faveur. Ils n'obéissent pas, ils obéissent à rien d'autre. Ce n'est pas quand tu vas mettre l'huile que les anges vont venir se manifester. Ce n'est pas lorsque tu vas mettre un poster de Jésus dans ta maison que les anges vont venir se manifester. Ce n'est pas lorsque tu vas faire le chapelet que les anges vont venir se manifester. Ce n'est pas lorsque tu vas embrasser la bague du pape ou bien de quelqu'un que les anges vont venir se manifester. La Bible dit qu'ils se manifestent sur ordre de quelqu'un. Amen. En obéissant à quoi? À la voix de sa parole. Ça veut dire que seule sa parole est capable de déclencher la manifestation des anges de l'Éternel. C'est pour ça un enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est capable d'activer le ministère des anges. Quand tu es dans une situation difficile et que financièrement parlant tu es bloqué, que tu sors la parole de Dieu qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ », les anges disent « Oh, tu as entendu l'ordre, nous sommes obligés de faire de telle sorte qu'ils puissent faire face à cette situation financière ». Donc ils vont commencer à travailler pour que la parole de Dieu soit honorée. Oh my God. Ça ne sert à rien de se plaindre. Ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien de critiquer, de dire « Oh, qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour me retrouver dans cette situation ? C'est difficile, je suis foutu, je vais faire comment ?» Ça, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de dire la parole de Dieu en face de cette situation. C'est de pour déclencher la puissance de Dieu. Trop peu de chrétiens aujourd'hui déclenchent la puissance de Dieu. On aime beaucoup se plaindre, on aime beaucoup pleurer. Mais on ne veut pas déclencher la parole, la puissance de Dieu en parlant, en disant ce que Dieu a dit. Alléluia. Regardez dans le psaume 107, un peu plus loin, verset 19. Prenez ça au sérieux. Alléluia. Prenons cela au sérieux. Verset 19. Psaume 107, verset 19. Psaume 107, verset 19. La Bible dit, dans leur détresse, donc ils étaient dans la détresse, ils ont fait quoi? Ils crièrent à l'Éternel. Amen. Et il les délivra de leur angoisse. Comment il les a délivrés? Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens te manifester. Seigneur, nous avons besoin que tu nous sauves. Nous sommes dans la fosse. Nous sommes en prison. Nous sommes emprisonnés. Nous sommes dans l'esclavage. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour pouvoir libérer ce peuple? La Bible dit, il a fait quoi? Il envoya sa parole. Sa parole est largement suffisante pour libérer qui que ce soit de l'infirmité, de la maladie, de la détresse. La puissance est dans la parole. Vous vous souvenez tous de cette femme? La Bible dit dans la Bible qu'il y avait une femme qui était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Et un jour de sabbat, le Seigneur Jésus est venu et passait par là, il a vu la femme qui était courbée et il a touché la femme, il lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et aussitôt, la femme s'est redressée et la Bible dit qu'elle a commencé à glorifier Dieu. Alléluia. Nous, on pense souvent que c'est dans l'imposition des mains. Sérieusement, tu lis ça, tu vas dire, non, Jésus, il avait une puissance particulière qui a fait que lorsqu'il a touché la femme, l'électricité est sortie en même temps de son corps pour toucher la femme. C'est ça qui a fait que la femme s'est redressée. Mais si c'était le cas, il n'avait pas besoin de lui dire, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Mais il a libéré la... Pourquoi? 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 C'est le titre du message. Pourquoi? Parce que la puissance est dans la parole. Prenez tous les miracles de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre l'abus. Va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi à chaque fois Jésus était obligé de libérer la parole? Parce que la puissance est dans la parole. Tous les miracles qui ont été accomplis l'ont été parce que Jésus a parlé. Parce que Jésus lui-même, il est quoi? Il est la parole. Dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et il les guérit. Dans la détresse de l'humanité, les hommes ont crié à Dieu. Envoie-nous un sauveur. Envoie-nous quelqu'un pour nous libérer. Envoie-nous quelqu'un pour nous montrer le chemin. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Christ, la parole, s'est faite chair. Alléluia. Jésus est là, est l'incarnation même de la parole. Et Dieu, donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé sa parole. Donc, Jésus, qui est la parole de Dieu, est descendu. Et il est venu, maintenant, la parole est là, la puissance est là. Jean chapitre 1, verset 1. La puissance est dans la parole. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Waouh. Au commencement était la parole. C'est fort. Au commencement. C'est-à-dire qu'on va même, placer la parole au début de toute chose. Quand la Bible dit « au commencement était la parole », ça veut dire que la parole est au début de toute chose. On ne va pas rentrer dans cette discussion où on dit « entre l'œuf et la poule, qui est venu le premier ?» Vous connaissez cette réflexion-là, « entre l'œuf et la poule, qui est venu le premier ?» Si c'est la poule, comment est-ce qu'elle est arrivée? Pour qu'elle arrive, il aurait fallu qu'elle soit d'abord dans un œuf. Mais si elle était dans un œuf à la base, qui a pondu l'œuf? C'est la poule. Mais comment l'œuf a pu être pondu si la poule n'existait pas? Et comment la poule a pu arriver si l'œuf n'existait pas? En ce qui concerne Dieu et la parole, c'est pareil. L'action de Dieu a commencé quand Dieu a parlé. Mais il fallait que Dieu soit pour que la parole puisse être manifestée. Mais est-ce que la parole pouvait se manifester sans Dieu? C'est pour ça que la Bible dit, au commencement était la parole. Ça dit que tout a commencé quand la parole est sortie. Dès que la parole, dès que je... C'est pour ça qu'il a dit à Moïse. Moïse dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Donne-moi ton nom, je ne sais pas qui tu es. Quand je vais aller vers les gens vont me demander, mais qui t'a envoyé? De leur dire quoi? Dieu dit, tu veux connaître mon nom? Il dit, prends un stylo, prends un cahier, écris. Voilà mon nom. Je suis. Je suis est mon nom. J'existe. Personne n'a été là avant moi. Je suis à l'origine de tout. Mais tout a commencé à se manifester lorsque j'ai commencé à parler. Oh my God. La puissance est dans la parole. Le problème de la foi aujourd'hui, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que on ne veut plus répondre à la parole avec foi et avec persévérance. On veut voir des choses, on veut des manifestations, on veut des choses à toucher, à attraper. Est-ce qu'on peut attraper la parole? Est-ce qu'on peut voir la parole? On peut entendre la parole. C'est pour ça que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole, si nous répondons correctement à la parole de Dieu, nous allons en voir les manifestations et les fruits. Dieu a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui savent l'utiliser, ils vont faire quoi? Ils en mangeront les fruits. Parce que la parole est capable de produire du fruit. Amen. La parole est donc la source originelle de la puissance de Dieu. Vous savez une chose concernant la parole de Dieu? Tout ce que Dieu dit, il le voit s'accomplir. Obligé. Prenez Jérémie chapitre 1, verset 12. Jérémie 1, 12. Tu sais à quel moment les choses commencent à changer dans la vie d'un homme? Quand il commence à changer sa manière de parler. Alléluia. Les choses commencent à changer dans la vie d'un chrétien quand il commence à changer sa manière de parler. Quand il arrête de plus en plus de parler comme les hommes et qu'il commence de plus en plus à parler comme Dieu. Plus tu vas parler comme Dieu, plus les choses et les manifestations de Dieu vont se manifester dans ta vie. Moins tu vas parler comme Dieu, plus tu vas t'éloigner de Dieu. Jérémie chapitre 1, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Et l'Éternel me dit, il dit à Jérémie, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Qu'est-ce qu'il a dit? Je veille sur ma parole. Pourquoi? Pour l'exécuter. Il veille sur quoi? Sur sa parole. Est-ce qu'il veille sur le linceul de Jésus? Est-ce qu'il veille sur l'huile d'onction? Est-ce qu'il veille sur, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel il veille? Il y a une seule chose sur laquelle il veille. Pour s'assurer que cette chose-là s'accomplit, c'est quoi? C'est sa parole. Je veille sur ma parole. Amen. Pour l'exécuter. Qu'est-ce que tu as dit, Seigneur? Tu sais, en face de n'importe quelle situation, ta démarche doit être de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette situation. Hier, j'ai un jeune homme qui m'a appelé pour me remercier. Il dit, ah pasteur, je voulais te remercier. Je dis, pourquoi? Il dit, non, je viens juste d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Je dis, ah bon? Et bizarrement, 2 heures plus tôt, je parlais avec la sœur Suzanne du témoignage de la sœur Lydie, qui a été aussi baptisée dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Au téléphone. Après avoir écouté l'école du Saint-Esprit, ah oui, je vais être baptisé dans le Saint-Esprit, reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Et le jeune homme, lui, je parle de ça avec la sœur Suzanne. 2 heures plus tard, un jeune homme m'appelle d'une ville là, je ne sais pas où, il dit, ah, oh, pasteur, c'était pour te dire merci. Je lui dis, pourquoi? Non, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Je lui dis, comment? Il dit, non, j'ai écouté ton CD, l'école du Saint-Esprit, que j'ai prêché, j'ai donné cette école-là il y a 7 ans. Et chaque année, chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, en écoutant seulement le message, reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la puissance est dans la parole. Tous ceux qui peuvent écouter ce message peuvent recevoir la puissance qu'il y a dans ce message-là. Alléluia. T.L. Osborne raconte l'histoire d'un jeune homme dans un village africain qui était perclus, donc paralytique. Et les gens étaient fatigués de s'occuper de lui. Vous savez, quand quelqu'un est paralytique, il a besoin des autres pour tout faire. Et il faut s'occuper de lui. Ça devient un vrai fardeau. Et la Bible dit que ce jeune homme-là, était dans, ils l'ont mis dans une case, quelque part. Et les gens qui pouvaient venir l'aider, sa famille même avait pratiquement démissionné. Mais quand même, de temps en temps, il y a un jeune homme dans le village qui venait pour le nettoyer un peu, verser de l'eau sur lui, lui donner à manger. Cet homme-là a passé des années dans cette case-là, jusqu'à ce qu'un jour, Thiel Osborne organise une croisade dans la région. Et comme il a l'habitude de le faire, il avait des cassettes qui étaient disponibles avec des phonogrammes en ce temps-là, des trucs, des appareils pour pouvoir lire les choses, les cassettes. Et il les mettait à la disposition des gens qui venaient les acheter à des prix modiques. Et un jeune homme qui a acheté l'appareil, un Walkman avec une cassette de l'enseignement de Thiel Osborne. Et dessus, il enseignait sur la personne de Jésus et vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et il a pris ce phonogramme-là, il l'a amené dans la case et il l'a donné au jeune homme paralytique qui n'avait aucune autre distraction que d'écouter les messages de Thiel Osborne. Et alors que la parole passait et qu'il écoutait, et qu'il écoutait, et qu'il écoutait, un moment il a décidé d'agir sur la base de la parole de Dieu. Il a dit, la Bible dit que Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il dit, je ne crois pas que c'est Dieu qui veut que je sois là. Seigneur, tu as dit que tu guérissais tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et il commence à essayer de bouger les orteils. Et il commence à essayer de bouger la cheville. Et il commence à essayer de bouger les jambes. Et il commence à se battre et à confesser la parole de Dieu. À écouter la parole, à confesser la parole, à écouter la parole, à confesser la parole. Et à chaque fois que le message passe, il y a une dose de puissance qui entre dans son corps. Quand il a commencé à bouger ses orteils, il a commencé à bouger ses chevilles, il a commencé à bouger son genou, il a commencé à bouger ses hanches. Le frère a dit, bon, maintenant je vais me lever, je vais commencer à marcher. Première tentative, il se laissait de se lever, il trébuche, il retombe. Deuxième tentative, ça a duré plus d'un mois cette situation. Mais à un moment, il s'est levé et il a marché. Il dit qu'il commençait à marcher et les gens du village sont sortis, ils l'ont vu en train de marcher et de venir. Oh my God! Les villageois ont crié, Dieu est vivant, Dieu existe! Et ils ont commencé à glorifier le nom du Seigneur. La parole! La parole. Dis à ton voisin, reviens à la source. Regarde Ésaïe 55, verset 1, verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Tu peux lire même à partir du verset 10. Je déclare que les anges de l'Éternel sont à ton service à partir d'aujourd'hui. Ils exercent un ministère en ta faveur à partir de maintenant. Toute situation qui était défavorable est transformée en situation favorable au nom de Jésus. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Dieu lui-même dit, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi en est-il de ma parole. Qui fait quoi? Qui sort de ma bouche. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne retourne point à moi sans effet. Amen. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduit en paix. Dis, je sors avec joie et je suis conduit en paix. Alléluia. Sa parole, elle ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté. Une femme qui était allée à une soirée de guérison d'un homme de Dieu qui s'appelle Kenneth Hagin. qui avait un puissant ministère de guérison aux États-Unis à un moment. On l'appelle l'apôtre de la foi parce qu'il a emmené vraiment l'enseignement de la foi et le ministère de la foi à un certain niveau. Et il expliquait comment, lors de ces soirées de guérison, effectivement, il y avait l'onction et la puissance de Dieu qui se manifestaient. Mais une fois, il avait fini d'exercer le ministère. Et nous qui exerçons le ministère, nous savons comment, à la fin d'un programme, tu peux être vidé. Tu peux être vidé, tu n'as plus de perception, je dirais, de puissance ou d'onction. Tu as juste envie d'aller te coucher, dormir. Et la femme arrive à ce moment-là, elle lui dit, « Pasteur, je souffre. J'ai besoin que Dieu fasse quelque chose pour moi. S'il ne fait pas quelque chose pour moi maintenant, je ne sais même pas si vous allez me revoir dans une semaine. » Il dit, « Mais pourquoi tu parles négativement comme ça ?» Et après, il lui dit, « Franchement, moi, là où je suis, là, je suis fatigué, je n'ai plus rien. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Elle lui dit, « Qu'est-ce qui te fatigue ?» Et elle commence à lui expliquer rapidement que c'est un esprit machin. Il dit, « Je te dis aujourd'hui que cet esprit-là n'a plus le droit de rester dans ta vie. » Et il s'en va. Il n'y a pas eu de manifestation particulière. Il n'y a pas eu de signe particulier. La femme est partie sur la base de cette parole-là. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle va expliquer plus tard que l'esprit a voulu se manifester. Le même esprit qui se manifestait avant. Et puis elle lui a dit, « Mais le pasteur a dit que tu es parti. Tu viens chercher quoi encore ? Sors de chez moi. » Ça a duré peut-être 2 jours, 3 jours. Et elle a appelé le pasteur Kenneth Hagan pour lui dire, « Mais pasteur, l'esprit que tu as chassé là, il veut revenir. » Le pasteur dit, « Ce n'est pas possible. Quel que soit ce qui se passe, je l'ai chassé au nom de Jésus, il est obligé de partir. » Il est, oh my God, c'est comme ça qu'on répond à la parole. Il est obligé. Qu'on a chassé l'esprit là, c'est pas forcément que tu vas le voir tout de suite dans l'immédiat la partie, mais quand on a dit au nom de Jésus, c'est scellé. Toi, tu dois t'appuyer sur cette parole là. Et il dit, il est obligé de partir. Et quand la femme a accepté cette parole, et qu'elle a saisi la parole, et qu'elle a compris que effectivement, comment est-ce qu'un esprit peut résister au nom de Jésus? Comment est-ce qu'un esprit, après qu'on ait parlé au nom de Jésus, peut faire comme avant ou comme il voulait? Quand elle a reçu la révélation, elle a dit, mais je suis libérée. L'esprit n'est plus jamais revenu dans sa vie. Alléluia. Ta réponse à la parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je vais vous dire quelque chose. Satan n'a pas peur du jeûne. Je dis à tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, et qui vont m'entendre par la suite. Satan n'a pas peur du jeûne. Il allait parler à Jésus quand Jésus était en train de jeûner. Et puis il n'était pas au 10e jour de jeûne. Il n'était pas au 20e jour de jeûne. Il était au 40e jour. Ça veut dire que lui, Satan, il allait parler à Jésus qui est le Fils de Dieu à son 40e jour de jeûne. Donc ce n'est pas tes 2 jours, 3 jours de jeûne qui vont effrayer Satan. C'est quand même tu jeûnes là même là. Que Satan vient causer avec toi. Tu sens la nourriture là, non? Quelqu'un est en train de préparer à 2 kilomètres là-bas. Toi, tu sens la nourriture. Tu dis c'est tel repas, machin. T'as pas fait, oh, t'es pas fatigué. Toi-même, tu souffres trop. Regarde comment tu es en train de te faire souffrir comme ça. C'est ton quelième jeûne même. 10e. Est-ce que tu as vu les choses ont changé? Ah, vraiment, moi-même, je ne sais pas. Il cause avec le diable en plein jeûne. C'est dans les jeûnes même, il vient causer avec les gens. Il est venu, Jésus, ça va? 40e jour. Donc, moi, je ne sais pas quel genre de jeûne toi tu fais qui va effrayer le diable. Le diable n'a pas peur de tes jeûnes. Le diable n'a pas peur de parler en langue. Écoutez, chaque chose a son objectif. Le parler en langue n'a jamais été donné pour chasser les démons. Parce qu'à la base, un parler en langue n'est pas supposé comprendre, un démon n'est pas supposé comprendre ton parler en langue. La Bible dit que le parler en langue a été donné aux hommes pour pouvoir parler directement à Dieu. C'est en langue qui dit des mystères que les hommes ni les esprits ne peuvent comprendre. Donc c'est un langage spirituel qui concerne l'esprit de l'homme et Dieu qui est le Père des esprits. Donc les anges ne sont pas supposés comprendre ton parler en langue. Donc, si tu viens chasser un esprit et tu lui dis « Rabacha Kamara », l'esprit, il est là, il te regarde, il dit « Elle est là, même là. » Elle dit quoi? Parle en langue, ne chasse pas le diable. Jeûne, le jeûne ne chasse pas le diable. À quel moment le diable a fui? Lorsqu'il est venu attaquer Jésus, c'est lorsque Jésus lui a dit, il est écrit. Lorsque Jésus lui a répondu avec la parole, économisez votre énergie, économisez votre temps. Le diable est vaincu par la parole. Alléluia. Il est vaincu dans ta vie au nom de Jésus. La prière puissante. Quelle est la prière puissante? La prière puissante, c'est la prière qui est basée sur la parole. C'est pour ça que les chrétiens peuvent apprendre à prier. Quand tu apprends à connaître la parole et que tu fais des prières qui sont basées sur la parole, alors ces prières-là sont puissantes. Comme il dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pour lequel elle a été envoyée. Donc une prière normale, c'est une prière qui commence par dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, maintenant je déclare que, ça, comme ça. Quand tu parles en langue, dans le moment de prière, c'est pour te fortifier toi-même. Et c'est pour pouvoir adresser des sujets dont tu n'as pas la conscience. Ou que tu ne connais pas. Mais à un moment, l'intelligence doit reprendre le dessus. Analyser la situation. Chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette situation. Dis à Dieu, Dieu, voilà ce que tu as dit. Et quand tu dis, Seigneur, voilà ce que tu as dit, les anges, leur travail c'est quoi? D'exécuter la voix de sa parole. Ils disent, mais on ne peut pas permettre que notre patron passe pour un menteur. Donc, ils sont obligés d'agir sur la base de la parole qui a été donnée. Dis à ton voisin, la puissance est dans la parole. Même l'onction. L'onction, c'est dans la parole. Regarde Luc chapitre 5, verset 17. Luc 5, 17. Il dit, en parlant de Jésus, un jour, Jésus faisait quoi? Il faisait quoi? Il enseignait. Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi. Était là assis, venu de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Et quoi? Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alléluia! Il enseignait seulement. Et la puissance se manifestait par des guérisons. Pendant qu'il enseignait, tous ceux qui étaient malades, qui étaient là, commençaient à expérimenter des guérisons dans leur corps. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient dans une église ou vient voir un homme de Dieu et qu'il a un problème ou qu'il a une maladie, il est assis dans la salle et il dit, il n'a qu'à vite finir de prêcher, il va prier pour moi. Ou bien, c'est même pas il n'a qu'à vite finir de prêcher, il n'a qu'à vite finir de parler. Et il va prier pour moi. Et quand le pasteur a fini d'enseigner, de prêcher, des fois même pendant le message, il dit, je déclare que toute situation contraire à la volonté de Dieu dans ta vie prend fin. Et les autres crient amen. Elle dit, fais vite, tu vas prier. Sans savoir que la puissance est dans la parole. Alléluia! Et que cette parole-là qui est sortie de la bouche de l'enseignant, si tu avais su la saisir au moment où elle était sortie, tu aurais pu recevoir ton miracle sans forcément qu'on prie pour toi. Parce que des fois, et très souvent même, on prie pour ces personnes-là. Et c'est toujours ces personnes-là qui ne reçoivent rien, qui reviennent encore, qui vont te dire après, oui, par rapport à ce problème, tel a prié pour moi, tel autre pasteur a prié pour moi, tel autre. Mais ces pasteurs-là, ils sont tellement puissants. Si eux, ils ont prié pour toi, et puis tu n'as rien eu, moi, je fais quoi? Hein? Entre guillemets, c'est comme si c'est la puissance des pasteurs. Mais ce n'est pas la puissance des pasteurs. Parce que la puissance n'est pas dans un pasteur. La puissance est dans la parole de Dieu que le pasteur te donne. Ton vrai problème, ce n'est pas la puissance du pasteur. Ton vrai problème, c'est ta manière de réagir vis-à-vis de la parole. Sa manière de réagir. Alléluia. Prenons un autre passage avant de lire. Oh my God. Actes chapitre 10. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Actes chapitre 10, verset 44. On va parler de notre ami, le premier païen qui a donné sa vie à Jésus. Il s'appelle Corneille. Ça, vous pouvez le voir dans le chapitre 10 au verset 1. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cour dite italienne. Donc, c'était un Italien. Mais la Bible dit, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. Donc, qu'est-ce que faisait Corneille? Il faisait quoi? Il faisait beaucoup d'aumônes et il priait continuellement. OK? Donc, il faisait beaucoup d'offrandes, Corneille, et il priait beaucoup. Mais la puissance n'est pas dans l'offrande. Alléluia. Et la puissance n'est pas dans la prière non plus. La Bible dit qu'il y a eu toute une chose. Un ange est venu lui dire, écoute, tes prières ont été entendues, machin, mais je vais t'envoyer la solution. Quelle solution? Va chercher un homme qui s'appelle Pierre. Cet homme-là va venir t'annoncer certaines choses. Et il va envoyer des gens pour aller chercher Pierre. Au début, Pierre dit qu'il ne va pas. Après, Dieu a convaincu Pierre, il lui a dit, va parler à Corneille. La Bible dit au verset 44, écoutez bien, ou lisez bien, verset 44, la Bible dit, comme Pierre faisait quoi? Prononçait encore ces mots. C'est-à-dire, il annonçait la parole. Et il est en train de parler et de dire ce que Dieu a dit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ça veut dire que s'il y avait des gens qui étaient là ce jour-là, qui n'écoutaient pas la parole, ils ne recevaient pas le Saint-Esprit. Donc la puissance est dans la parole. C'est comme ça que la puissance a été communiquée. Amen. Amen. Dernier passage que nous allons lire ce matin dans 1 Samuel, chapitre 1. Vous connaissez l'histoire de celle qu'on appelle Anne. Amen. La mère du prophète Samuel. La Bible dit, 1 Samuel 1 à partir du verset 20, 19. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Mais avant ça, verset 1, donc, il y avait un homme de Ramathaïm, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élium, machin, machin. Verset 2, il avait deux femmes. dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Amen. Ensuite, la Bible dit au verset 9, « Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle fit quoi? Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Donc cette femme-là était dans une prière intense. Elle priait, elle priait, elle priait. À un moment, elle n'avait même plus de force pour faire sortir sa voix. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait plus. Certains disent que c'est la première personne qui a parlé en langue. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Cette femme criait, elle souffrait, elle était dans une forme d'agonie. Pourquoi? Parce que son mari avait deux femmes. Elle était l'une des femmes de son mari et l'autre femme de son mari faisait des enfants et elle n'en faisait pas. Et elle a crié à l'Éternel, elle a crié à Dieu, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a dû multiplier les jeûnes et prier. Mais la Bible dit que lorsque le prophète est arrivé, l'homme de Dieu est arrivé, la Bible dit, il dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. La Bible dit au verset 17, Élie reprit la parole et dit, va en paix. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit au verset 18, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a saisi la parole. Elle a saisi la parole. Elle n'a pas dit, mais pasteur, tu ne m'imposes pas les mains sur le ventre? Pasteur, tu ne décrètes pas 7 jours de jeûne et prière? Pourquoi? Tu n'as pas déjà assez jeûné? Tu n'as pas déjà assez prié? Pourquoi tu ne veux pas faire la chose la plus simple? Quelle est la chose la plus simple? Saisir la parole. Oh, alléluia. Alléluia. Saisir la parole. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la puissance est dans la parole. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. La puissance est dans la parole. Quand tu vas parler à quelqu'un aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, ou dans 10 ans, sache que si tu veux mettre cette personne-là en contact avec la puissance de Dieu, il faut lui dire ce que Dieu a dit. Amen. Et tu vas voir les résultats. Tu n'as pas besoin d'être un archibishop. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur ou un prophète international. Tu as simplement besoin de dire ce que Dieu a dit. Alléluia. Et si la personne saisit cette parole, alors elle saisit la puissance qui est dans la parole. Parce qu'en réalité, la puissance est dans la parole. Alléluia. Élève la voix ce matin et parle à ton Dieu. Demande-lui pardon pour avoir négligé sa parole. Demande-lui pardon pour avoir sous-estimé sa parole. Demande-lui pardon pour n'avoir pas saisi la parole comme elle devait être saisie. Et dis-lui qu'à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, les choses changent. Alléluia. À partir de maintenant, À partir d'aujourd'hui, les choses changent. Alléluia. Faut que ça sorte de ta bouche. À partir de maintenant, répète après moi, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, les choses changent. Encore une fois, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, mes circonstances changent au nom de Jésus. Tout ce qui m'entoure concourt à mon bien. Et toutes les situations sont transformées et changées pour agir en ma faveur. À partir d'aujourd'hui et à partir de maintenant, les choses changent. Les choses changent. Toute parole qui sort de ma bouche agit avec force et avec puissance. Et les anges de l'Éternel campent autour de moi. Éveille à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Toutes les montagnes entre moi et l'accomplissement de ma destinée sont aplanies au nom de Jésus. Tout esprit qui veut s'opposer à mon épanouissement et à l'accomplissement de ma destinée est chassé au nom de Jésus. Je déclare que la puissance dans la parole de Dieu est manifestée dans ma vie, dans la vie de mes enfants et dans toutes mes entreprises. Au nom de Jésus, je rentre dans une période d'accélération, de bénédiction et de révélation. Révélation de mon Dieu, révélation de mon Père, révélation de celui qui a des projets de bonheur pour moi. Je déclare que la parole de Dieu est manifeste et vivante dans ma vie à partir de maintenant. Et le peuple de Dieu dit
Amen.
Amen. Alléluia. Je vais te donner une fenêtre maintenant. Et je veux que tu commences maintenant à parler et à dire toutes les choses que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et dans la vie de tes enfants. Commence à parler. Commence à parler. Les choses que tu veux voir s'accomplir sur la base de la parole de Dieu. Les choses que Dieu a promises et que tu n'as pas encore vu se manifester. Car le Seigneur a dit qu'il veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu entends les déclarations et les confessions de tes enfants. Si tu veux une promotion, déclare-le. Si tu veux que Dieu ouvre les portes d'une nation pour toi, dis-le. Si tu veux que Dieu te donne du travail, dis-le. Si tu veux que Dieu ouvre les portes de l'administration française pour une régularisation, dis-le. Si tu veux que Dieu ouvre les portes pour te mettre en contact avec les autorités, avec les personnes compétentes, dis-le. Tout ce que tu veux, dis-le. Alléluia. Et comme le prophète Élie l'a dit à la servante Anne, il a dit, va en paix et que l'Éternel exauce la prière que tu lui as adressée. Je déclare maintenant sur ta vie, va en paix et que l'Éternel accomplisse ce que tu lui as demandé. Alléluia. Qu'il accomplisse et qu'il réalise ta prière au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Poussez des cris de joie à la gloire de ton Dieu. Il est merveilleux, il est excellent, il est fort et puissant. Alléluia. Alléluia. On va s'asseoir 2 minutes.